Est-ce que vous m'entendez bien? La distance au micro est bonne. Alors, j'ai pensé commencer cet enseignement par contempler ce que la parole de Dieu nous révèle de ce mystère de la Vierge Marie et de la prédestination de la Vierge Marie et de notre prédestination, c'est-à-dire ce regard d'amour de toute éternité de Dieu posé sur nous. Et cette volonté qu'il a de notre salut, qui appelle, qui demande, bien sûr, notre coopération. Et donc, ce grand mystère de notre prédestination à travers le Sacré-Cœur de Jésus et à travers le Cœur Immaculé de la Vierge Marie, notre Mère, bien, il se donne d'une manière spéciale au début de l'Épître aux Éphésiens. Donc, Épître aux Éphésiens, chapitre 1. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce, dont il nous a gratifiés dans le bien-aimé. En lui, nous trouvons la rédemption par son sang, la rémission des fautes selon la richesse de sa grâce, qu'il nous a prodiguée en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il avait formé en lui par avance pour le réaliser quand les temps seraient accomplis, ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres. C'est en lui encore que nous avons été mis à part, désignés d'avance selon le plan préétabli de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté pour être à la louange de sa gloire, ceux qui ont par avance espéré dans le Christ. C'est en lui que vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut et y avoir cru, vous avez été marqués d'un sceau par l'Esprit de la promesse, cet Esprit Saint, qui constitue les arts de notre héritage et prépare la rédemption du peuple que Dieu s'est acquis pour la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi-même, ayant appris votre foi dans le Seigneur Jésus et votre charité à l'égard de tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à votre sujet et de faire mémoire de vous dans mes prières. Daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donner un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse vraiment connaître. Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel, quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints, et quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous les croyants, selon la vigueur de sa force qu'il a déployée en la personne du Christ, le ressuscitant d'entre les morts et le faisant siéger à sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute principauté, puissance, vertu, seigneurie, et de tout autre nom qui se pourra nommer, non seulement dans ce siècle-ci, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et l'a constitué au sommet de toute tête pour l'Église, laquelle est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Frères et sœurs, c'est à ce plan merveilleux d'amour que nous sommes appelés à coopérer, que nous sommes appelés d'abord à recevoir gratuitement, nous qui ne méritons rien, parce que comme créatures nous avons été tirés du néant, et la Vierge Marie aussi comme créature a été tirée du néant, du non-être. Et la Vierge Marie comme nous, nous recevons tout gratuitement de la miséricorde infinie de Dieu. La première qui a cru, la première qui a été bénie par toutes sortes de bénédictions spirituelles, qui a été constituée sainte et immaculée, c'est la Vierge Marie, notre Mère. Nous allons prendre ce récit du mystère de l'Annonciation, et j'aimerais quand même mentionner, puisque l'islam se fait si présent dans le monde et aussi en Europe et en Belgique, j'aimerais vous dire tout de suite que ce récit de l'Annonciation que nous connaissons déjà, évidemment, enfin, auquel nous sommes habitués, mais que nous allons renier parce qu'il est inépuisable et qu'il nous dépasse complètement, ce récit de l'Annonciation, il se retrouve presque tout entier dans le Coran. Donc les musulmans croient dans la virginité perpétuelle de la Vierge Marie. Il est écrit dans le Coran qu'elle a été élue parmi toutes les femmes du monde, au-dessus de toutes les femmes, qu'elle a été consacrée par Dieu au temple de Jérusalem, qu'elle a conçu Jésus dans sa virginité, et qu'elle est la femme consacrée à Dieu, la sainte par excellence. Même si, il faut bien sûr tout de suite préciser, les musulmans ne croient que dans l'humanité de Jésus. Ils ne croient pas en sa divinité. Alors c'est vrai que si matériellement le récit de l'Annonciation se trouve dans le Coran, bien le cœur de ce mystère, qui est le mystère de la Trinité qui nous est révélé et qui nous est donné, il échappe aux musulmans. Ils croient dans la sainteté exceptionnelle de la Vierge Marie, mais ils ne comprennent pas jusqu'où cela va, jusqu'au fait qu'elle est la mère de Dieu. Donc nous allons prendre dans l'évangile de Luc, c'est au chapitre 1, à partir du verset 26, ce récit admirable de l'Annonciation. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il ? Puisque je ne connais pas d'homme. » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, elle aussi, vient de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois. Elle, qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Ce qui frappe dans ce mystère de l'Annonciation tel qu'il nous est donné dans la révélation scripturaire, c'est d'abord son extrême simplicité, sa pauvreté, son dénuement. Autant l'apparition précédente de l'ange Gabriel au grand prêtre Zacharie, qui s'est réalisée durant la liturgie du temple, elle a quelque chose d'extraordinaire, d'extrêmement puissante. Autant la visite de l'ange Gabriel à la Vierge Marie est si intime, si pauvre, dénué de toute prestance extérieure, parce qu'il s'agit d'abord de l'intimité du cœur de la Vierge Marie avec son Dieu. Vous avez contemplé la fois dernière le point de départ du mystère de la Vierge Marie caché dans le cœur du Christ, le mystère de son Immaculée Conception. Elle est la créature, l'unique créature qui a reçu dès le premier instant de sa conception la plénitude de la grâce, qui a été transformée par la plénitude de la grâce, et qui de ce fait a été entièrement soustraite à l'emprise du démon. Vous savez, depuis la chute, eh bien, toute génération humaine, toute conception humaine se réalise dans le péché et nous vivons dans les conséquences du péché originel que Saint Jean a si bien exprimé par les trois convoitises, les trois concupiscences dans sa première épître. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'exaltation ou l'orgueil de la vie. Eh bien, ces trois fêlures qui abîment en nous l'image de Dieu, qui la défigurent et qui font que le démon a ses droits d'entrée en nous, dans notre imaginaire, dans notre sensibilité, dans nos passions surtout, mais plus encore dans notre soif de conquête, de domination qui s'appelle l'orgueil. Eh bien, tout ça échappe complètement dans le mystère de la Vierge Marie. Elle est, voyez, il y a deux textes extrêmes qui nous disent quelque chose de très fort sur le mystère de la Vierge Marie, dans le premier livre de la Bible, qui est le livre de la Genèse, et puis dans le livre de l'Apocalypse. Au tout début du livre de la Genèse, il nous est dit « Dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, planait sur les eaux. » C'est assez bouleversant de voir comme une préfiguration de l'Annonciation dans ce mystère de l'Esprit Saint, dont le souffle de sainteté, dont la miséricorde s'étend sur les eaux. Et vous savez que dans le nom de la Vierge Marie, il y a Myriam, Yam c'est l'océan, c'est la mer ou l'océan. Le premier symbole de la Vierge Marie c'est l'eau. L'eau par sa simplicité, par sa transparence, par sa disponibilité. Rappelez-vous comment saint François d'Assise, dans son cantique des créatures, célèbre l'eau comme la servante de Dieu pour la vie qui est donnée aux hommes. Hein? Et puis on retrouve ce mystère de la mer dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4. C'est une autre suggestion du mystère de l'Annonciation que nous venons de lire dans l'Évangile de Luc. Et je vous lis ça, c'est au chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. J'eus ensuite une vision, voici une porte était ouverte au ciel et la voix que j'avais naguère entendue me parler, comme une trompette me dit, monte ici que je te montre ce qui doit arriver par la suite. À l'instant je tombais en extase, voici un trône était dressé dans le ciel et siégeant sur le trône quelqu'un. Celui qui siège est comme une vision de jaspe et de cornaline, un arc-en-ciel autour du trône est comme une vision d'émeraude. Suggestion symbolique de ce mystère de la Vierge Marie, l'arc-en-ciel, ce pont entre le ciel et la terre. L'arc-en-ciel, ce sont des gouttelettes d'eau qui permettent aux rayons du soleil de déployer toutes ces couleurs. Eh bien, c'est un symbole de la Vierge Marie. Autour du trône, le mystère de cette maternité enveloppante de la Vierge Marie. 24 sièges entourent le trône, sur lesquels sont assis 24 vieillards vêtus de blanc avec des couronnes d'or sur leur tête. Du trône partent des éclairs, des voix et des tonnerres, et 7 lampes de feu brûlent devant lui, les 7 esprits de Dieu. Verset 6. Devant le trône, on dirait une mer transparente comme du cristal. Évocation du mystère de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Comme la créature la plus proche du mystère de la Sainte Trinité et du trône de la toute-puissance, de la sagesse et de la miséricorde du Père éternel. Dans le livre des Proverbes et le livre de la sagesse, il nous est dit de la Vierge Marie sous l'allégorie de la sagesse qu'elle est comme une pure effluve du mystère de Dieu, comme aussi cette source vive, jaillissante dont nous parlent les prophètes et dont nous parle aussi le livre de l'Apocalypse. Revenons donc à l'évangile de Luc. C'est quand même étonnant de voir que toute cette attente prophétique à travers le mystère d'Israël dans l'Ancien Testament, qui est tellement dans le péché, dans les faillites humaines, dans les conflits, dans la violence, eh bien que tout ça se termine, toute cette attente se termine dans la Vierge Marie. Évidemment, Il y a à la fois une continuité. La continuité, c'est la miséricorde de Dieu. C'est le fait que la Vierge Marie, elle fait partie du peuple hébreu. C'est une juive. Et en même temps, il y a une discontinuité parce que c'est une reprise totale de la grâce de Dieu. C'est un peu comme dans notre vie. Il y a notre vie de pécheur. Et puis, il y a la grâce de Dieu. Il y a l'enfant de Dieu en nous qui dépasse complètement, eh bien, tout cet atavisme du péché en nous. Le sixième mois, Saint-Luc fait bien sûr référence à la maternité miraculeuse d'Élisabeth, la vieille Élisabeth, cousine de la Vierge Marie. L'ange Gabriel, alors c'est important de voir, on est habitué nous toujours, l'ange Gabriel, on pense tout de suite à l'Annonciation et puis à l'apparition aussi à Zacharie, mais c'est tout, on ne va pas plus loin. Il faut voir que l'ange Gabriel, il apparaît bien sûr déjà dans l'Ancien Testament et dans un seul lieu de l'Ancien Testament, le prophète Daniel. Alors, je vous lis cette petite référence, donc c'est le prophète Daniel chapitre 8. « Moi, Daniel, contemplant cette vision, j'en cherchais l'intelligence. » Alors, cette vision qu'il a eue, son message est exprimé juste dans le passage précédent, verset 13. « J'entendis un saint qui parlait, et un autre saint dit à celui qui parlait, jusqu'à quand la vision ?» Le sacrifice perpétuel, désolation de l'iniquité, sanctuaire et légion foulée aux pieds. Il lui dit encore, 2300 soirs et matins, alors le sanctuaire sera revendiqué. Nous pensons à cette vocation à la sainteté du peuple de Dieu qui a été tellement profanée par tant de péchés et d'infidélités. Et voilà l'intervention de la toute-puissance de Dieu, de sa miséricorde, à travers la Vierge Marie. L'ange Gabriel a été chargé de donner à Daniel l'intelligence de cette vision. Et ensuite, au chapitre 9, avant une deuxième intervention de l'ange Gabriel, il y a cette prière magnifique du prophète Daniel. « Ah, mon Seigneur Dieu est grand et redoutable, qui garde l'alliance et la grâce pour ceux qui t'aiment et observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal et nous avons trahi, et nous nous sommes détournés de tes commandements et ordonnances. » Cette prise de conscience de notre misère humaine, la Vierge Marie a porté, elle a porté toutes ces prières de son peuple Israël dans l'ardeur et la pureté de son cœur immaculé, pour son peuple auquel elle appartenait, afin que ses prophéties de rédemption par le Messie soient enfin réalisées. Alors je lis cette deuxième apparition de l'ange Gabriel, c'est dans la suite du chapitre 9. « Je parlais encore en prière quand Gabriel, l'être que j'avais vu en vision au début, fondit sur moi en plein vol à l'heure de l'oblation du soir. » Ça nous rappelle la vision qu'a eue le prophète, le grand prêtre Zacharie dans le temple de Jérusalem à l'heure de l'offrande du soir. Il vint me parler et me dit, Daniel, me voici, je suis sorti pour venir t'instruire dans l'intelligence. Dès le début de ta supplique, une annonce a été émise et je suis venu te l'annoncer. Tu es l'homme des prédilections. Pénètre la parole, comprends la vision. Sont assignées 70 semaines pour ton peuple et ta ville sainte pour mettre un terme à la transgression, pour apposer les scellés au péché, pour expier l'iniquité, pour introduire éternelle justice, pour sceller vision et prophétie, pour oindre le saint des saints. Voilà comment cette parole et toutes ces paroles de l'Ancien Testament sont présentes dans le cœur de la Vierge Marie. Mais ce qui domine dans son cœur immaculé, c'est cette adoration en esprit et en vérité, qui était la vocation première du peuple consacré à Dieu. Je vous le redonne au Deutéronome 6:6. Et je vais vous le donner d'abord en hébreu. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre. Ahavta, Adonai Elohecha, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Bechol nafshecha, uvechol libbecha, uvechol meodecha. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Si Dieu a créé la Vierge Marie et le mystère de son Immaculée Conception. C'est pourquoi, c'est pour qu'elle soit un pur reflet de sa gloire. C'est pour que enfin la vocation d'Israël soit accomplie. Celle d'être un peuple réservé à Dieu, consacré à Dieu dans l'adoration et dans son service. Et pour que accomplissement et dépassement de toutes les prophéties, Dieu puisse à travers elle et par elle entrer dans notre monde, entrer dans notre chair, et ça veut dire nous rejoindre chacun d'entre nous, rejoindre notre condition humaine, charnelle, particulière à chacun d'entre nous. Le mystère de l'incarnation que nous contemplons dans ce mystère de l'Annonciation, au départ du mystère de l'incarnation, eh bien c'est Dieu qui nous rejoint chacun d'entre nous, dans notre cœur, dans notre condition humaine, toute particulière. C'est ce que nous dit le Concile Vatican II, de manière très explicite. Dieu s'est fait homme afin de venir vivre Emmanuel en chacun d'entre nous et nous transformer par sa grâce. C'est ça la finalité de l'incarnation, faire de nous les enfants bien-aimés du Père par le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché et par le don de l'Esprit Saint qui nous permet avec Jésus, avec la Vierge Marie, de nous écrier « Abba, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite ». L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Ce n'est pas la Judée, la région sainte par excellence autour de la ville de Jérusalem. Il s'agit de la Galilée, carrefour des nations. C'est-à-dire qu'elle fait partie du royaume du Nord qui a été tellement mélangé par tellement d'influences païennes. La Galilée avait mauvaise réputation et Nazareth encore plus. Rappelons-nous la parole de Nathanaël, de Nazareth, que peut-il sortir de bon ? Eh bien, c'est au milieu de ces chardons qu'est apparu ce lys très pur de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Comme dit le Cantique des Cantiques, comme un lys au milieu des chardons, source scellée, jardin clos, en latin hortus conclusus fons signata. Un jardin clos comme un paradis originel qui a été fermé à l'influence du démon, réservé à Dieu. Une source scellée, une source de vie qui n'appartient qu'à Dieu et qui est réservée pour communiquer sa grâce et ses miséricordes au monde entier. Appelé Nazareth, vous savez que le nom de Nazareth, il y a trois racines différentes en hébreu qui donnent l'étymologie de Nazareth. Il y a d'abord Nazir, qui veut dire la consécration. Nazareth exprime le mystère de la consécration de la Vierge Marie. Et il est dit aussi dans un psaume, Alaïv Yatsitz Nizro Nezer, il y a à la fois la souche de Jessé, c'est ce qui indique l'humilité de la Vierge Marie. Et puis, il y a sur lui la couronne fleurira, il y a le fleurissement de la grâce. À une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph. Vous savez que la maternité virginale du Messie avait été annoncée par le prophète Isaïe, et c'est la première lecture du jour où nous fêtons l'Annonciation, la messe de l'Annonciation. La première lecture, c'est Isaïe 7, ce qu'a rappelé saint Matthieu dans son évangile. Lorsque l'ange s'adresse à Joseph, il lui dit « Tout cela pour que s'accomplisse la parole du prophète Isaïe, voici que la Vierge concevra et enfantera un fils. Hinne yara aralma fayoledet habben. » Alors, nous prenons ce passage ce chapitre 8 du prophète Isaïe. Excusez-moi, c'est le chapitre 7, verset 10. « De nouveau, le Seigneur s'adressa à Akaz et lui dit, Donc nous sommes dans les années 800 avant Jésus-Christ. De nouveau, le Seigneur Dieu s'adressa à Akaz et lui dit « Demande donc au Seigneur ton Dieu un signe pour toi issu des profondeurs du Shéol ou bien des hauteurs de là-haut. » Un signe qui dépasse toute sagesse humaine et toute sagesse angélique. Akaz répondit « Non, je ne mettrai pas le Seigneur au défi. » Vous savez que c'est le même mot « signe » qui est utilisé au chapitre 12 de l'Évangile, au chapitre 12 de l'Apocalypse. « Voici qu'un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, 12 étoiles couronnent sa tête et la lune est sous ses pieds. » C'est dans ce chapitre 12 de l'Apocalypse que se déploie de la manière la plus explicite ce chef-d'œuvre de la grâce de Dieu, la maternité divine de la Vierge Marie. Voici qu'un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, elle est reine de l'univers, 12 étoiles couronnent sa tête, la lune est sous ses pieds. Et ce grand signe donné à notre humanité, à notre espérance, au milieu des combats, au milieu de nos échecs, de nos misères, de la victoire de Dieu, c'est le grand signe que Dieu donne pour écraser la tête du serpent, pour réaliser eh bien, cette première annonce évangélique qui avait été faite dans Genèse 3,15, « Voici que ta descendance écrasera la tête du serpent. » Alors reprenons cette oracle du prophète Isaïe. Akaz répondit « Non, je ne mettrai pas le Seigneur au défi. » Akaz refuse d'entrer dans l'alliance que lui propose le Seigneur par son prophète. Akaz refuse de faire cet acte de foi. Alors, le Seigneur dit, écoutez donc, maison de David, ne vous suffit-il pas de fatiguer les hommes que vous en veniez à fatiguer mon Dieu? Dieu aurait pu se dire, bah, j'en ai assez, ça fait des siècles et des siècles que j'essaye d'éduquer ce peuple à l'adoration et à mon alliance, et il ne cesse de prévariquer, eh bien j'abandonne tout. Eh bien non, au contraire. C'est donc le Seigneur lui-même qui va vous donner un signe. Voici, la jeune fille, la Vierge, est enceinte et va enfanter un fils qu'on appellera Emmanuel. Qu'est-ce que ça veut dire que ce mystère de la virginité de la Vierge Marie? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'avant la virginité, il y a un mot en hébreu qui est utilisé ici, c'est le mot « alma », qui n'apparaît que 7 fois dans l'Ancien Testament et qui ne met pas la lumière d'abord sur la virginité. Alma, c'est une jeune fille pubère. Évidemment, la virginité est impliquée. Mais ce qui est mis en valeur, c'est que c'est une jeune fille dans la plus grande fraîcheur, la plus grande beauté et dans la plus grande simplicité, dans la plus grande vulnérabilité. Dans une mentalité guerrière comme on l'était dans l'Ancien Testament, une jeune fille, ça n'a pas de valeur. Dans le monde méditerranéen, patriarcal et machiste, eh bien, la valeur, c'est le guerrier. Et dans toutes les, depuis les hommes préhistoriques où les hommes s'entretuent, depuis Caïn et Abel, eh bien, ce qui dominait, c'était les valeurs guerrières. Et la femme ne prenait sa valeur que par la maternité, dans sa capacité d'engendrer. Mais avant d'être mère, eh ben, c'est un peu l'esclave, c'est la Samaritaine qui va puiser l'eau en plein midi, quoi. Et donc c'est ça que Dieu a choisi. Dieu a choisi ce qu'il y a de plus vulnérable, de plus fragile, de plus impuissant au niveau humain. Qu'est-ce que c'est qu'une jeune fille en temps de guerre? Ben, rien du tout. C'est ce que Dieu a choisi au moment où Israël est dans le plus grand désarroi. Parce que il aurait fallu lire ce qu'il y avait juste avant, le début du chapitre 7. On apporta cette parole à la maison de David. Aram a pénétré en Éphraïm. Alors le cœur du roi et le cœur du peuple se mirent à palpiter comme palpitent les arbres de la forêt sous le vent. Rappelons-nous, pour ceux les plus vieux d'entre nous, lorsqu'il y a eu la déclaration de guerre de 14 et de 39, le désarroi, surtout pour un pays comme la Belgique, tout petit, ce qui rend la Belgique assez semblable au mystère d'Israël, tout petit par rapport à des grandes puissances extérieures. Lorsqu'on nous annonce qu'il y a une guerre mondiale et que les grandes nations qui nous entourent ont déclaré la guerre, eh bien, il y a un vent de panique, de désarroi. Eh bien, c'est dans ce désarroi que le Seigneur a donné ce signe de la Vierge Marie. C'est lorsque nous nous sentons perdus, orphelins, abandonnés, déprimés, lorsqu'on a l'impression que notre vie est un échec, que la miséricorde de Dieu veut nous rejoindre dans ce qui nous est le plus proche, c'est le mystère de la maternité. Je répète, ce qui nous est le plus proche dans notre condition humaine, c'est le mystère de la maternité. On a tous commencé par 9 mois cachés dans le ventre de notre mère. On a commencé par ce qu'il y a de plus minuscule, la première cellule lors de la conception, qui n'est connue que de Dieu seul. La femme ne sait pas quand est-ce qu'elle se trouve enceinte. C'est un mystère. Elle ne le sait pas. C'est réservé à Dieu. De même que l'infusion de l'âme est réservée à Dieu. Toute notre condition humaine a commencé par cette vie, cette mystérieuse vie intra-utérine de 9 mois, dont nous n'avons aucun souvenir, aucune conscience, mais selon les psychologues, c'est ce qu'il y a de plus fondamental dans notre condition humaine, dans notre expérience humaine. Et puis ensuite, il a fallu qu'on soit allaité par notre mère, qu'elle nous lange, qu'elle veille sur nous jour et nuit, parce que si vous abandonnez un bébé à la naissance, il sera incapable de rien faire. Dieu nous a créés dans un état de pauvreté et de dépendance totale. Et cet état de pauvreté et de dépendance totale a été confié à qui ? Eh bien, spécialement à la mère, qui porte l'enfant 9 mois, qui le nourrit de son lait et qui veille sur lui. Ce premier signe de la miséricorde de Dieu. Eh bien, c'est quand même bouleversant de se dire que Dieu, qui est parfait, qui n'a besoin de rien, qui a toutes les perfections, qui est pur esprit, qui dépasse complètement notre monde et notre matière. Il est transcendant, il est le 3 fois saint. Rappelons-nous la vision du prophète Isaïe lorsqu'il contemple quelque chose de la gloire au ciel. Eh bien, il est fracassé, terrorisé. Et toutes les apparitions de la sainteté, toutes les manifestations de la sainteté de Dieu dans l'Ancien Testament, les hommes c'est la panique. Ils sont écrasés par cette gloire de Dieu. Eh bien voilà que cette toute-puissance et cette gloire de Dieu va descendre, va s'abaisser par pur amour, jusqu'à se faire si petit, jusqu'à épouser notre misère humaine, notre fragilité humaine, pour nous montrer à quel point il nous aime. Quand on aime quelqu'un, on s'abaisse pour se mettre à son niveau. C'est la loi de la miséricorde. Quand vous avez un tout petit enfant qui veut venir vers vous, qui s'adresse à vous, si vous restez du haut de vos 1m70 ou 1m80, il y a quelque chose qui ne va pas, le décalage est trop grand, il faut s'agenouiller et se mettre à son niveau pour l'écouter et pour lui montrer que vous vous mettez à son niveau. Et la maman, elle sait très bien faire ça, plus que personne, de devoir s'abaisser pour se mettre au niveau de son tout petit. Eh bien, c'est ce que Dieu fait dans ce mystère de l'Annonciation. Il a voulu se faire véritablement l'enfant de la Vierge Marie, chair de sa chair et cœur de son cœur. Vous savez que c'est la première chose dans l'embryologie, dans le développement du petit enfant dans le ventre de sa mère. Il y a la première palpitation cardiaque au bout de la 3e semaine, vers le 20e, 21e jour. La femme n'en a aucune conscience. Quand notre cœur, la première pulsation de notre cœur a commencé, alors que nous étions minuscules, a commencé au bout de la 3e semaine, au 20e ou 21e jour de grossesse. C'est mystérieux. Au cœur de Jésus vivant en Marie. Nous devons contempler et adorer dans la foi que notre Seigneur, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, a voulu se faire si petit dans la Vierge, dans les entrailles de la Vierge Marie. Et d'abord dans son cœur. Parce que vous voyez, autant la maternité humaine, eh bien, elle se réalise de manière très obscure et de manière inconsciente. Comme je le disais, la femme n'a pas conscience du premier moment de la conception dans ses entrailles. C'est un mystère qui est réservé à Dieu seul. C'est pour ça qu'il faudrait tellement que Enfin, ce que je veux dire, c'est que toute chrétienne qui désire être mère et qui se prépare à être mère, elle devrait se préparer dans la prière pour accueillir ce don de la vie avec un cœur d'adoration, avec un cœur d'admiration, parce que c'est quand même tellement prodigieux que Dieu ait voulu que nous soyons père et mère, que Dieu nous ait laissé l'initiative dans la transmission de la vie. C'est un grand mystère. Une confiance dingue que Dieu nous a fait. Voir la manière de ce que l'homme en a fait de ce don aujourd'hui, quoi. Bon, évidemment, il y a quand même tellement de cœurs de maman qui vivent ça d'une manière merveilleuse. Mais on sait combien toute la pression du monde et de la société dans laquelle nous vivons, qui est sous l'emprise de l'esprit du monde, l'esprit de domination, il voudrait détruire ce don de la vie. Il voudrait détruire ce mystère de l'amour maternel et de l'amour paternel. Et dans cette furie du démon, notre refuge, c'est le cœur immaculé de la Vierge Marie. Refuge des pécheurs qui écrasent la tête du serpent, qui est infiniment plus puissante que toutes les armées démoniaques. La Vierge Marie est infiniment plus puissante que tout l'orgueil de Lucifer et que toutes les armées démoniaques. Pourquoi ? Parce qu'elle est le sanctuaire du Très-Haut, parce qu'elle est l'épouse de l'Esprit-Saint, parce que Dieu le Père a fait d'elle la mère de son Fils bien-aimé. Il lui a remis, il lui a confié entièrement son Fils bien-aimé. Donc je disais, le mot qui est utilisé dans l'oracle du prophète Isaïe, c'est le mot « alma » que nous avons gardé dans les cantiques de la Vierge Marie en latin, « alma mater ». Eh bien, « alma » en hébreu, ce mot qui veut dire « jeune fille nubile », vierge par conséquent, eh bien, c'est un mot en hébreu qui est de la même racine que le mot « secret ». Et c'est pour ça que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, eh bien, dans le secret de Marie, dans le traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie, la première chose qu'il dit de la Vierge Marie, c'est qu'elle est le secret de Dieu, c'est-à-dire le fruit de son amour et de sa connaissance aimante. Elle est d'abord réservée à Dieu. Elle n'appartient qu'à lui. Et c'est ce que nous manifeste ce mystère de l'Annonciation. Et c'est une vérité pour nous. Notre âme spirituelle n'appartient qu'à Dieu. Notre corps, nous l'avons reçu de nos parents, et avec notre corps, notre atavisme, on a les yeux du grand-père, on a le caractère de cochon, si j'ose dire, de cet arrière-grand-père dont on se souvenait de ses colères épouvantables, ou au contraire, on a la délicatesse de l'arrière-grand-mère, enfin peu importe. On a tout un atavisme, on reçoit, on est passif. Ce corps, je ne l'ai pas choisi, et il m'a été transmis par les générations qui m'ont précédé, de même la psychologie. Par contre, le cœur, c'est-à-dire l'âme spirituelle, ma capacité d'aimer et de comprendre au niveau spirituel, elle vient directement de Dieu. L'âme, elle nous vient directement de Dieu. Et donc, c'est pour ça que le Concile Vatican II parle de ce sanctuaire secret de notre cœur. Et en ce temps de carême, et je trouve ça très intéressant que nous ayons cette fête de l'Annonciation pendant le temps du carême. Parce qu'elle nous rappelle l'essentiel. L'essentiel, c'est notre cœur à cœur avec notre Créateur et Sauveur. Il est unique pour nous parce qu'il est le seul de qui nous avons tout reçu. Il est le seul être subsistant qui est la plénitude de tout. Et nous sommes uniques à ses yeux. Il n'y a pas que la Vierge Marie qui est unique aux yeux de Dieu. Chacun d'entre nous en est unique aux yeux de Dieu. Rappelons-nous que c'est pour chacun d'entre nous que cette passion de Jésus à laquelle nous nous préparons, ce mystère de la croix que nous vivons chaque vendredi du carême, toutes les souffrances de Jésus, il les a vécues, toutes pour la Vierge Marie, mais aussi pour chacun d'entre nous. J'aime beaucoup cette parole de Blaise Pascal qui est si forte. Même s'il y avait eu qu'un seul être humain à sauver, s'il n'y avait eu que toi à sauver, Jésus aurait tout vécu la même chose pour te sauver, toi. C'est dingue quand même de se dire ça. Et ce qu'il y a de plus beau et d'unique qu'on peut offrir à Dieu, c'est notre adoration, de dire comme le petit Samuel, « Me voici, Seigneur, parle, voici, ton serviteur est là pour toi. » Dans un monde qui est de plus en plus dans la distraction, et c'est dingue de voir comment les technologies, le rythme dans lequel nous vivons, avec toutes les techniques, les technologies qui ne cessent d'augmenter, surtout les technologies télévisuelles, les écrans et tout, ça nous met tellement dans la distraction. Coupons nos écrans, nos téléphones portables, régulièrement, chaque jour et chaque semaine, pour avoir un temps qui est pour Dieu. La Vierge Marie nous rappelle l'essentiel, son mystère d'Immaculée Conception, ce mystère de l'Annonciation, il est entièrement relatif à cette alliance intérieure que Dieu veut avec chacun d'entre nous. Il veut demeurer en nous, Emmanuel, prendre cœur de notre cœur, chair de notre chair, nous purifier du péché, nous libérer, parce que le péché nous rend esclaves, il nous rend aveugles, il nous rend sourds. Donc le Seigneur veut nous purifier, veut nous libérer. Et il veut faire de nous ses enfants bien-aimés, il veut nous donner sa grâce, ses grâces. Mais vous voyez, tout le temps que nous consacrons à Dieu chaque jour et chaque semaine, c'est comme un verre. Si notre verre n'est pas vide pour le recevoir, disponible pour le recevoir, on ne va pas le recevoir. Parce qu'on sera dans l'agitation, dans l'extériorité. Et la Vierge Marie nous rappelle l'essentiel, c'est la vie d'oraison. Ce mystère de l'Annonciation. Cette insistance particulière sur la virginité, parthénos en grec, a été donnée par les versions grecques de la Bible, donc à partir de la Septante. Et elle veut montrer justement ce mystère de la consécration virginale de la Vierge Marie. La Vierge Marie a répondu au don gratuit de son Immaculée Conception en s'abandonnant, en se remettant totalement à Dieu et en lui consacrant sa virginité, c'est-à-dire sa capacité d'être épouse et d'être mère. La Vierge Marie s'est dépouillée de ça. Elle est la première des consacrés. Et le don de sa maternité divine a été une surabondance à laquelle elle ne s'attendait pas. Il entra chez elle et lui dit: « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » Alors je m'arrête un instant sur la manière dont l'ange Gabriel a salué la Vierge Marie. D'abord il lui dit « Réjouis-toi », ce qui nous rappelle toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui annoncent la joie de la venue de Dieu, du don de son alliance dans l'Ancien Testament, spécialement dans le prophète Sophonie. Alors, prophète Sophonie, chapitre 14. Pousse des cris de joie, fille de Sion, une clameur d'allégresse, Israël. Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Sois sans crainte, Sion, le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, héros sauveur. Il exultera pour toi de joie. Il te renouvellera par son amour, il dansera pour toi avec des cris de joie comme au jour de fête. Est-ce que nous vivons de cette joie chrétienne, de la victoire de Jésus qui nous est donnée gratuitement chaque jour? Est-ce que nous prenons le temps chaque jour de nous réjouir? Merci Seigneur, tu es vainqueur, tu m'aimes, tu m'as sauvé gratuitement, je t'appartiens, je te donne ma vie. La Vierge Marie nous rappelle, spécialement dans son cantique d'action de grâce, son Magnificat, l'importance de proclamer la gloire de Dieu et sa louange. Parce que ça fait tomber la tristesse du monde qui nous accable. Ça secoue la poussière et ça ouvre notre cœur à la grâce de Dieu. Réjouis-toi, comblé de grâce. Alors nous traduisons comblé de grâce, mais la traduction n'est pas très bonne. Parce que l'expression en grec, elle est très étrange, kéchalitomene, c'est un verbe très rare, chalito-o. C'est pas le verbe chalitzomai qui veut dire faire grâce. Chalito-o, c'est transformé par la grâce. Donc ça veut dire celle qui a été transformée par la grâce, et en plus, ce participe passif, il est au parfait et il a un sens résultatif. Donc ça veut dire celle qui a été entièrement transformée par la grâce. Et ça, c'est ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Il veut nous transformer entièrement par sa grâce, pour que, comme saint Paul, nous puissions dire « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi ». C'est ça notre vocation chrétienne, de désirer dire avec saint Paul « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Et pour ça, il faut que meure notre moi charnel, nos préoccupations charnelles, et que ce soit la volonté de Dieu qui s'empare de notre cœur, comme elle s'est emparée du cœur de la Vierge Marie et du cœur de Jésus, parce qu'il n'avait d'autre désir que la volonté du Père. Le Seigneur est avec moi. Et ce qui est aussi très important, c'est que tout transformé par la grâce, c'est le nom propre que l'ange Gabriel donne à la Vierge Marie. Il lui a pas dit « Réjouis-toi, Marie, toi qui as été transformée par la grâce ». Ce mot « entièrement transformé par la grâce », il le lui donne comme son nom propre, pour montrer que c'est l'identité de la Vierge Marie, c'est l'être de la Vierge Marie qui est transformé par la grâce. Il n'y a que la grâce de Dieu en elle, et rien d'autre. Rien de charnel, rien de pécamineux. À ces mots, elle fut toute bouleversée. Alors comment, pourquoi Marie elle n'est pas bouleversée par la présence de l'ange, mais par les paroles de l'ange? Personne ne l'a saluée comme ça. La Vierge Marie n'a jamais pensé à son Immaculée Conception. Elle était cachée à ses propres yeux. Celui qui est vraiment pauvre, il ne pense pas à lui. Celui qui est toujours préoccupé de son petit moi, comment je me sens, mon confort, est-ce que les autres pensent à moi, est-ce qu'on me reconnaît? Ça, c'est les tentations du péché originel, c'est ça en eux, c'est l'égocentrisme et l'égoïsme. Et ça, ça nous enferme, ça nous rassit, ça nous ratatine. Bienheureux les pauvres en esprit, nous contemplons dans ce mystère de l'Annonciation cet abîme de pauvreté et d'humilité. Saint Alphonse de Ligorie, dans les gloires de Marie, quand il médite le mystère de l'Annonciation, il insiste beaucoup, à la suite de toute la tradition de l'Église, sur cet abîme de pauvreté et d'humilité de la Vierge Marie cachée à ses propres yeux. Elle ne pensait qu'à Dieu et qu'aux autres, jamais à elle-même. Alors c'est vrai, c'est très beau que Dieu a gravé ça dans le cœur, davantage dans le cœur des femmes que dans le cœur des hommes. Il y a dans la vocation féminine, qui est sponsale et maternelle, il y a comme une empreinte spéciale de la charité divine, de l'amour des siens, une capacité de se donner, de s'oublier, et de se donner pour les autres qui est plus grande dans le cœur de la femme. Pour ça que l'alliance de miséricorde de Dieu, elle est plus profonde dans la nature féminine, déjà au niveau de la création. Elle fut toute bouleversée, elle se demandait ce que signifiait cette salutation. On voit que la Vierge Marie, elle n'est pas dans la passivité. On l'appelle Virgo Prudentissima. Elle est trône de la sagesse et Vierge très prudente. Il y a l'intelligence de la foi chez la Vierge Marie qui est très active. Elle s'interroge, elle cherche à comprendre pour mieux aimer, pour mieux se mettre au service de Dieu. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. C'est la même expression qui est utilisée pour Noé, au milieu de... Alors, je crois qu'on a déjà passé le temps, on va reprendre cette méditation tout à l'heure. Nous allons maintenant continuer à travers la prière, parce que les paroles du prédicateur, elles sont importantes, et vous priez, j'espère, pour que ce soit le Seigneur qui vous parle à chacun d'entre vous. Et puis c'est surtout maintenant dans notre ouverture, dans la prière, que la grâce de Dieu va agir, nous éclairer, nous conduire et nous donner ses grâces et nous renouveler dans son alliance d'amour. Amen. Amen.